France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, on se demande comment lutter contre les idées reçues, contre la pauvreté, des idées reçues qui peuvent susciter le rejet dans une société qui valorise la réussite matérielle, des clichés et des préjugés sur les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui peuvent également affecter leur estime de soi et leur santé mentale. Lutter contre les idées reçues sur la pauvreté, c'est aussi redonner de la dignité à celles et ceux qui en souffrent. Une émission en partenariat avec l'association ATD Quart Monde et avec le Secours Populaire. J'attends toutes vos questions et surtout vos témoignages. Avez-vous été victime de préjugés, de clichés, de discriminations liées au fait que vous connaissiez la pauvreté? Standard ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
L'essentiel, c'est de rester gai. C'est un moyen que j'ai préconisé contre la peste, et il est bon pour toutes les autres maladies. Il n'y a qu'à voir les pauvres. Pourquoi meurent-ils en masse? Parce qu'ils sont tristes. Il y aurait un livre à écrire là-dessus pour l'instruction des pauvres.
Quand un ultra-privilégié du XVIIIe siècle juge les pauvres, hein, dans le film Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Bonjour Henriette Stenberg.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du Secours Populaire et vous aviez publié Ne jamais baisser les yeux chez Robert Laffont. Ne jamais baisser les yeux, c'est peut-être l'injonction que l'on pourrait adresser à celles et ceux qui vivent la pauvreté.
Je partage tout à fait cette approche. Le fait de vivre la pauvreté est déjà une situation extrêmement difficile tous les jours, toutes les nuits. Et à partir du moment où les personnes sont en très grande difficulté, le seul fait d'accepter de regarder les êtres autour de soi, dans les yeux, est le début de la prise en compte du fait que chacun appartient à ce monde et qu'il doit à ce titre, et qu'elle doit à ce titre, être respectée. Je ne change rien, ni à l'approche, ni à la démarche, ni à l'obligation morale que nous devons avoir tous et toutes sur ce sujet. Cela nous appartient vraiment. Et bien sûr qu'il y a des tas de mesures à prendre. Mais la première des mesures, c'est de regarder l'autre comme son égal. Et c'est simplement depuis 2 ou 3 000 ans que la question se pose.
Bonjour Isabelle Motreau.
Bonjour Ali.
Vous êtes autrice et journaliste. Vous avez notamment dirigé la rédaction de Cosette. Vous faisiez partie de la bande de Laurent Ruquier à la radio. Et lors de la saison 93-94, vous présentiez une émission à cette heure-là sur France Inter. Ça s'appelait Zoom.
Et aujourd'hui,
vous avez rejoint l'association ATD Quart Monde qui lutte contre la pauvreté depuis plus de 60 ans. ATD Quart Monde qui publie un précieux guide En finir avec les idées fausses sur la pauvreté, coédité avec les éditions de l'Atelier, avec des dessins de Pancho, Philippe Geluc, Camille Bess ou encore Loïc Sécheresse. Et il ne coûte pas cher ce guide, il faut donner le prix.
Il coûte 5 euros.
Et avec nous également Anne-Marie de Pasquale, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée nationale d'ATD Quart Monde. L'émission d'ATD Quart Monde, Anne-Marie de Pasquale, quelles sont les grandes missions d'ATD Quart Monde?
À l'émission, alors elles sont dans le nom, agir tous pour la dignité. Et l'essentiel, c'est d'agir pour les droits des personnes et de faire reconnaître, et c'est un fait maintenant, que la pauvreté, c'est une violation des droits humains. Et que agir contre la pauvreté, c'est agir pour les droits. Et les droits, c'est ceux de tous pour tous qu'on défend.
Bonjour François Lelor.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, vous avez coécrit avec Christophe André l'estime de soi. Et chez le même éditeur, Audi Jacob, soyez gentil mais pas trop. Nous évoquerons avec vous en fin d'émission tous ces clichés sur la pauvreté qui peuvent altérer l'estime de soi de celles et ceux qui en sont la cible. On n'est pas très gentil avec les pauvres, pour reprendre le titre du livre de François Lelor, Anne-Marie de Pasquale. Nous avons souvent, je dis nous, c'est un nous collectif pour parler de la société, un regard dur sur la pauvreté, sur les pauvres, sur ceux qui en souffrent.
Oui, alors on a soit un regard dur, soit pas de regard, on les invisibilise, soit un regard condescendant. alors que ce ne sont pas du tout des personnes fragiles, ce sont au contraire, je pense, des personnes qui sont toute leur vie dans le combat, dans la lutte, dans une lutte contre la dépendance et l'humiliation qu'on leur fait subir. Et on devrait au contraire avoir un regard, je reprends le terme du regard de tout à l'heure, admiratif.
Isabelle Motreau.
Oui, je trouve que on les invisibilise pour le meilleur, parce que en fait, quand on les invisibilise pas, c'est difficile à dire. C'est vraiment pour les caricaturer. Souvent, on s'en méfie, on les ridiculise. Non, on est dans une société où la pauvreté est pas quelque chose de facile à concevoir et à accompagner.
Henriette Stenberg.
Je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit que l'une des raisons, me semble-t-il, c'est que les personnes ont peur d'être dans cette situation. Et plutôt que de prendre le sujet à bras-le-corps pour que ça cesse, eh bien, ils commencent par avoir peur et donc leur comportement est un comportement de rejet ou de regard. Nous, on n'en est pas là. Et pour ceux qui ont des moyens importants, et ce que vous avez dit tout à l'heure en ouverture, de ceux qui ont des fortunes, le seul fait d'imaginer que ça puisse leur arriver est une telle violence qu'il n'y a pas de sujet. Pour nous, il y a un sujet.
Isabelle Motreau.
Oui, c'est exactement ce qui conditionne la façon dont on voit la pauvreté en France. Et c'est pas récent, hein, ça a toujours été comme ça. Les pauvres ont toujours été, suspects. On n'aime pas les voir. Quand on les voit, on se dit que c'est un peu de leur faute, parce que surtout que ça ne m'arrive pas à moi. Donc si c'est de leur faute à eux, ça va. Je ne suis pas menacée. Effectivement, il y a cette peur de soi-même de tomber dans la pauvreté, qui fait que on a ce regard, quoi, très dur.
Tiens, le regard du psychiatre François Lelort.
Oui, alors je pense que tout ce que vous dites est vrai. Je pense effectivement que face aux pauvres, il y a effectivement ceux qui sont un peu au-dessus de ce niveau qui craignent d'y retomber. La peur du déclassement. Et puis cette idée un peu méritocratique, c'est-à-dire que s'ils en sont là, c'est de leur faute. Et encore en France, on a une culture, assez philanthropique et on a notre grande œuvre majeure, Les Misérables, c'est quand même une exaltation de certains personnages très pauvres, mais il y a des pays où c'est beaucoup plus dur que ça. Enfin, par exemple, les États-Unis. Enfin, si vous voulez, si vous êtes pauvre, c'est que vous n'avez pas travaillé assez, quoi. Donc, mais il y a effectivement cette et puis aussi la culpabilité. C'est-à-dire, au fond, on ne regarde pas les pauvres pour ne pas se sentir coupable d'être plus prospère qu'eux et de ne rien faire. Alors, bien en France, on peut essayer de se déculpabiliser en disant, je paye des impôts, etc., puisqu'on a un système redistributeur. Mais je pense que c'est aussi parfois de l'empathie et de la culpabilité qui fait qu'on ne regarde pas les pauvres parce que c'est douloureux.
Qui est d'accord avec ça, Anne-Marie de Pasquale?
Bien sûr, c'est une douleur, c'est une souffrance qu'on veut effacer. Et ça enferme, ça contribue à enfermer davantage. Ben, si je prends l'exemple des enfants, en fait, dont les parents sont pauvres, qui ont forcément une fierté de leurs parents, parce que c'est intuitif, les parents sont là pour protéger, pour aider, et quelle honte ils peuvent ressentir quand ils sentent la discrimination dont leurs parents sont victimes. Là, c'est d'une vraie violence.
Henriette Stenberg.
Je partage tout à fait ce qui est dit, et en ce qui concerne les enfants, l'une des démarches fondatrices du Secours populaire, c'est de prendre en compte la situation des enfants et de permettre à tous les enfants, quelle que soit la situation de leur famille, d'avoir des activités communes et qui leur permettent d'avoir un projet à venir de dynamisme et d'activité et de connaissances. Et c'est d'ailleurs le sens même de ce que nous appelons la journée des oubliés des vacances. Et cette année, ce sera encore plus puissant que les autres années. Et il y aura des dizaines de milliers d'enfants qui seront au Champ de Mars et dont d'autres enfants qui habituellement sont ceux que l'on regarde avec envie se diront, ça alors ce qu'ils font, nous on aimerait bien le faire. Et pour nous c'est très important, les enfants d'abord parce que c'est l'avenir, une évidence, mais aussi parce que c'est avec les enfants qu'il est possible de construire un monde différent. Et si on ne leur montre pas que c'est possible à partir de leurs propres capacités, bien sûr c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est très efficace à l'école aussi.
Isabelle Motreau.
Oui, je voulais revenir sur la notion de culpabilité qu'on peut ressentir sortir quand on voit des gens très pauvres, en grande précarité, et qui s'accroît, je trouve, dans notre société actuellement. C'est-à-dire que on ne peut rien faire. On a ce sentiment que, en plus, qu'on est dépassé par ce qui se passe, ce qui se produit, et on n'a pas d'action facile à faire, quoi, pour endiguer cette pauvreté qui est en train de déferler. Hein, la pauvreté s'accroît en France.
Alors, Isabelle Motreau, Anne-Marie de Pasquale, d'ATD Quart-Monde, dans votre petit livre En finir avec les idées reçues sur la pauvreté, vous mettez un coup de projecteur sur ce que vous appelez la maltraitance institutionnelle. Écoutons Laetitia Ganet qui témoigne pour ATD Quart-Monde.
La maltraitance institutionnelle, en fait, c'est quand l'administration, elle croit que toi, tu es au courant de tes droits et que tu sais tout. S'il y a des lois qui changent et tout ça, et des procédés de leur part de l'administration qui changent, et que je trouve que on n'est pas assez au courant, les personnes descendantes en fait qui bénéficient des minima sociaux, d'être au courant des procédures en fait. Donc déjà c'est compliqué, parler à l'argent à la cave c'est compliqué. Donc ça demande des compétences que on n'a pas tous en fait. Donc je trouve que c'est pas très très bien pensé. Et en plus le pire c'est qu'on vous rend coupable. Voilà, c'est ça, te rend coupable que tu ne sais pas faire les démarches, que tu ne sais pas envoyer les documents dans le bon format, qu'il faut que tu aies déjà un ordinateur chez toi, déjà avec une imprimante, pour tout faire les démarches. Donc, ça multiplie encore plus de pas de droit, en fait, que tu ne les auras pas. En réalité, ils font tout pour que je pense que ça devient compliqué et que les gens se lassent et finir par abandonner, quoi. Mais abandonner, c'est mourir.
Anne-Marie de Pasquale.
Eh bien, Laetitia, elle évoque justement les droits et vous parlez effectivement, on a voulu parler de la maltraitance institutionnelle pour dire que la pauvreté, c'est pas seulement une privation matérielle, des privations matérielles, des privations de droits, comme c'est tout à fait, mais il y a aussi toutes les autres dimensions. Là, c'est un travail qu'on a mené avec ATD Quart-Monde depuis 2018 et au niveau international, avec des chercheurs, sur les dimensions de la pauvreté. Mmh. La dimension la plus forte qui a été partagée dans des pays du Nord comme du Sud, c'était justement la maltraitance institutionnelle. Alors j'ajoute l'isolement, la peur... les souffrances, la dégradation de la santé, les non-reconnaissances des compétences. Et toutes ces dimensions, elles aggravent la maltraitance institutionnelle qui peut être ressentie par tout le monde.
C'est quoi le seuil de pauvreté ? On est pauvre à partir de quel seuil, Anne-Marie de Pasquale ?
Là, vous parlez monétaire.
Monétairement, matériellement.
Alors, le seuil de pauvreté, il est reconnu à 50% du revenu médian, hein, c'est-à-dire que ça représente 1014 euros par mois. Nous, on parle plutôt du seuil de grande pauvreté, mmh. qui est celui de 40%, qui est de 811 euros. Et je rappelle que les personnes avec qui on travaille, quand ils sont bénéficiaires ou allocataires du RSA, ils ne dépassent pas les 600 euros de revenus. Mmh. Et ça, c'est quand ils sont allocataires. Il y a 30% des personnes qui auraient droit au RSA et qui ne le demandent pas.
On y reviendra tout à l'heure, juste après le disque. Mmh. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Ali.
Vous êtes le fondateur de Maison Casselli, un cabinet de tendance qui analyse nos sociétés. Vous êtes le co-auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux. Dans votre chronique Les Français modes d'emploi, une passion que je ne partage absolument pas avec vous.
Alors, Ali, ça va pas le faire aujourd'hui parce que non seulement je vais parler d'escalade et vous avez horreur de ça, oui. Mais en plus c'est un sport de riche, de privilégié.
Ça tombe bien aujourd'hui.
C'est ce que montrent toutes les études, ça tombe bien par rapport au sujet du jour, celui de la pauvreté. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi justement les jeunes cadres sup, notamment citadins, raffolent de cette escalade urbaine.
Intéressant.
Revenu de solidarité active.
HLM.
Habitation, loyer modéré.
Grand bien vous fasse.
GIC.
Grand invalide civil. Si tu veux la toucher, il faut faire semblant de boiter très fort.
Alors, c'est pas le Mozart des aides sociales, mon petit-fils ?
Ali Rebbi.
Et ce matin, on s'intéresse à quelques préjugés et idées reçues sur la pauvreté. Tiens, Jean-Laurent Casselli, on vient d'entendre un petit extrait des Tuches, série de films à succès. Vous avez vu le dernier. Est-ce que un film comme Les Tuches contribue à propager des idées reçues sur la pauvreté, ou alors pas du tout? Il s'agit d'une caricature qui justement joue des clichés, des idées reçues. Quel est votre point de vue, Jean-Laurent Casselli?
Oui, c'est une comédie populaire qui joue effectivement avec les stéréotypes liés à la France des années 60, 80, aux catégories populaires. Jeff Tuche boit de la bière à tous les repas, les Tuches adorent les frites, ils ont un côté un petit peu attachant, et donc je ne verrais pas vraiment une stigmatisation là-dedans, mais c'est vrai que le papa Tuche Coluche se fait fort de n'avoir jamais travaillé de sa vie et de vivre d'allocations, donc avant de devenir riche, puisqu'il gagne au loto et puis après il va devenir président de la République. Mais on pourrait voir dans les Tuches, effectivement, une manière par le cinéma populaire français d'aborder cette question de la pauvreté. On est même en panne un petit peu de terme. On parle des pauvres depuis le début de l'émission, mais j'entends aussi beaucoup le terme de marginaux, voire de cassos, de cas sociaux. Et en fait, c'est aussi un des manières très stigmatisantes de se détacher, comme vous l'avez dit, pour les classes moyennes, même populaires, de ce risque de la pauvreté, presque comme c'était un danger ou une épidémie, quoi.
Tiens, je vous propose d'écouter un extrait d'Histoire des préjugés sur France Culture.
Les pauvres vivent sur le dos des riches.
Xavier Mauduit.
Jeanne Guéroux.
Allez, reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sure et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Regardez, tiens, ils bougent même plus. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salope pauvre.
La lutte contre l'assistanat est un classique du discours politique. Partout, à Sao Paulo comme à Marseille, les riches ont peur des pauvres.
Ils justifient leurs privilèges comme le fruit d'un parcours exemplaire par opposition aux pauvres qui n'ont pas su s'en montrer dignes.
C'est au XIIIe siècle que s'impose l'image du parasite qui refuse le labeur. À cause des guerres, des famines, de la peste noire, il y a de plus en plus de mendiants et de vagabonds sur les routes et dans les villes.
C'est alors que l'image du pauvre est associée à celle du migrant.
Mais attention, les individus inaptes au travail en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une infirmité ne sont pas montrés du doigt. C'est aussi le cas de la pauvreté volontaire, celle des ordres mendiants, qui est même admirée.
En revanche, les autres pauvres sont perçus comme oisifs, voire criminels en puissance.
Alors que les villes ne cessent de s'agrandir, se propage l'idée que les pauvres échappent à l'effort collectif. Vivre en communauté, c'est pratiquer un métier honorable qui crée de la richesse pour le bien de tous.
Les mauvais pauvres sont donc accusés de vivre au crochet des riches.
Un extrait d'Histoire des préjugés disponible sur l'appli Radio France. Henriette Stenberg, l'idée que le pauvre est un parasite, qu'il abuserait du système, qu'il ne voudrait pas travailler, qu'il serait un assisté, un fraudeur, c'est l'image du pauvre qui subsiste majoritairement aujourd'hui dans l'opinion publique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne suis pas sûre. En tout cas, pour ce qui concerne la France... Il y a en France, me semble-t-il, et nous semble-t-il, au Secours populaire, une espèce de fraternité générale qui n'accepte pas que des personnes, et a fortiori des enfants, soient dans les situations qu'ils vivent. Et nous le voyons à la générosité, tout simplement. Et nous le voyons aussi lorsque nous réalisons des initiatives avec beaucoup de personnes, par l'arrivée de personnes qui jusque-là n'ont jamais rien fait et qui se disent ben « là je peux y aller une heure et je vais les voir et puis je vais faire quelque chose d'utile ». Je n'ai pas du tout, c'est une impression, je ne l'ai jamais entendu au Secours populaire, où que ce soit sur le territoire national.
Anne-Marie de Pasquale, je rappelle que vous êtes déléguée nationale d'ATD Quart-Monde de France.
Oui, c'est une idée qui circule. Moi, je pense qu'il faut le reconnaître quand même. Mais comme Henriette, je dirais qu'on ne parle peut-être pas assez aussi de cette volonté d'engagement et de fraternité qu'on retrouve, nous aussi, dans notre association, avec des personnes qui viennent s'engager pour agir aux côtés des personnes et non pas à leur place, non pas en leur nom, mais vraiment connaître, comprendre et ne pas baisser les yeux, vraiment aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jeune n'a pas la même vie qu'un autre.
Isabelle Moutreau, vous êtes bénévole à TD Quart-Monde.
Oui, alors moi je dirais que en fait ça dépend des classes sociales peut-être. C'est-à-dire que peut-être que les classes sociales les moins élevées sont plus généreuses parce que plus proches, de ce que vivent les gens en grande pauvreté ou en précarité, et qu'il y a quand même une frange de la société qui, elle, détourne les yeux et ne veut pas voir. Et alors, après, on peut parler politique ou pas, mais il y a quand même aussi une volonté politique d'intégrer les pauvres et de leur faire une place, ou pas. Ça, c'est autre chose. Par exemple, on le voit quand il y a des grandes catastrophes, les gens donnent de l'argent, énormément. Et c'est pas les plus riches qui donnent. Au contraire, c'est souvent une classe moyenne ou voire une classe défavorisée qui va pas donner grand-chose. Mais en majorité, quoi. C'est cette vision-là aussi qu'il faut avoir, je pense.
J'aimerais qu'on écoute Myriam. Bienvenue, Myriam.
Bonjour.
Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse. Vous vouliez témoigner ce matin.
Oui, alors moi je suis une ex-journaliste. Mmh. Et donc j'ai créé ma société. Et puis il y a eu un petit couac, on va dire. Mmh. Et elle s'est écroulée, et moi avec. Donc je me suis retrouvée à la rue. Et pendant 2 ans et demi, j'ai erré sans un centime, parce que l'administration est ainsi faite que pour les entrepreneurs, il n'y a rien du tout. Donc j'ai dû galérer vraiment beaucoup, et je peux témoigner que l'administration est assez froide, et qu'en même temps, on est un usager, on est un numéro, on est un dossier, et on est un peu baladé partout.
Permettez-moi de vous interrompre, Myriam, on parlait tout à l'heure de maltraitance institutionnelle. Vous avez souffert de cette maltraitance institutionnelle?
Je suis en plein dedans, actuellement. C'est un cumul, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je galère. Et actuellement, je suis rentrée dans des rouages insupportables.
Ah, on vous a perdu. Myriam, on va essayer de vous retrouver dans quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque une idée tenace, hein, tirée de votre petit livre « En finir avec les idées fausses sur la pauvreté », édité par Atédé Carmonde. Idée reçue, les pauvres font tout pour toucher des aides. Anne-Marie de Pasquale, c'est faux.
Alors c'est faux, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. En fait, en moyenne, plus de 30% des personnes qui ont droit à des aides...
30 à 40%.
C'est ça, parce qu'en fait, il y a différentes aides. Mm-hmm. Si on va sur le minimum vieillesse, on est à 50% des personnes qui ne sollicitent pas des aides auxquelles ils ont droit. Et là, on parle toujours de droit. Plus de
34%. Qui auraient droit à des aides sociales comme la CMU, les allocations familiales ou le chèque énergie. 30 à 40% des personnes qui auraient droit ne le demandent pas, mais pour quelles raisons?
Alors, on peut ajouter aussi les allocations chômage, auxquelles 30% des personnes n'ont pas recours non plus, alors qu'ils y auraient droit. Les raisons, elles sont multiples. Alors, les raisons, elles peuvent être des difficultés d'accès numérique, le manque de personnes physiques, de contacts physiques pour dénouer un dossier, la crainte aussi des conséquences négatives, et ça c'est vraiment à marquer.
La crainte d'être stigmatisé.
La crainte d'être stigmatisé, d'avoir encore plus de droits retirés, et ça touche 17% des Français. C'est important de dire qu'en 6 ans, ça a doublé. C'est quelque chose qui est inquiétant, ce doublement.
Et puis il y a également la volonté de ne pas dépendre de l'aide publique, et puis vous l'avez bien dit, hein, la disparition des services publics et la numérisation massive des démarches détourne une part importante des demandeurs, hein, Isabelle Motreau.
Oui, d'ailleurs, votre témoin tout à l'heure, la jeune femme qui a téléphoné, elle a dit deux choses très importantes. Elle a cité les mots de cumul et de rouage. Et c'est un peu ça le problème. C'est le cumul des demandes qui n'aboutissent pas, des dossiers qu'on n'arrive pas à remplir, qui aboutissent à quelque chose de terrible quand on est quand on a un peu d'argent. Bon, c'est juste très emmerdant, pardon pour l'expression, mais quand on n'a pas d'argent et qu'on se voit sucrer ses aides, etc., là ça devient quelque chose qui est catastrophique, quoi. Et le rouage, c'est ça aussi, c'est-à-dire on n'envoie pas une feuille pour un dossier, du coup on a tel truc qui est suspendu, qui entraîne une suspension de l'allocation chômage ou l'allocation logement, etc. On est dans des rouages et des cumuls.
Jean-Laurent Casselli.
C'est vrai ce que vous dites, on a l'impression parfois, peut-être à tort, que la société, l'État français est généreux envers les plus pauvres, mais en même temps, il y a cette violence institutionnelle, cette bureaucratisation des relations sociales qui, comme vous le dites, très emmerdante pour la plupart d'entre nous, mais quand c'est vital, ça devient une violence extrême.
Et nous avons retrouvé Myriam.
Oui, alors je vais dans ce sens, effectivement, parce que moi j'ai demandé 4 fois le RSA. Alors on va chercher ceux qui ne demandent pas, mais ceux qui demandent, ils n'ont pas. Moi j'ai demandé 4 fois et je n'ai jamais obtenu, donc je me suis retrouvée pendant 2 ans et demi à la rue, sans un centime, pas de couverture sociale et pas de transport, rien. Voilà, et c'est dramatique.
Et où en êtes-vous aujourd'hui, Myriam?
Aujourd'hui, j'en suis habité à un appartement insalubre, parce que je n'avais pas de toit, donc on m'a proposé un appartement. J'ai signé et j'ai découvert que c'était insalubre. Et également avec un problème de mesures administratives judiciaires qu'on m'a collé sur le dos. Tout ça parce qu'on pense que je ne suis pas capable de faire des dossiers, alors que je passe depuis plus de 10 ans à faire des dossiers.
Est-ce que vous êtes tourné vers des associations comme ATD Quart-Monde, le Secours Populaire
Absolument. Donc ATD Quart-Monde, le Secours Populaire, le Secours Catholique, toutes les associations qui sont présentes. Mais malheureusement, je dirais que c'est quelque chose de global. On a besoin aussi des services sociaux. Et les services sociaux sont souvent débordés. Et les personnes, d'ailleurs, qui nous donnent des réponses n'ont pas toujours les réponses.
Ariette Stenberg, du Secours Populaire.
Je partage tout ce qui vient d'être dit. Ce qui est manifeste ces dernières années, c'est la fermeture des services publics, la suppression des postes d'accueil, les dispositifs d'aide sociale qui existaient dans le cadre des collectivités territoriales qui a été profondément modifié, et un ensemble de mesures qui, au nom de l'informatisation et du fait que ça va plus vite quand c'est numérique, se traduit pour les personnes par la perte de contact avec des êtres humains, tout simplement, qui, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part dans un dossier ou sur un papier, sont capables de décrocher leur téléphone pour appeler le collègue du service d'où ça pourrait venir, pour voir comment débloquer le dossier. Aujourd'hui, vous pouvez toujours parler à votre ordinateur ou à votre téléphone, vous allez voir s'il fait quoi que ce soit tout seul. Donc en ce qui concerne le Secours Populaire, pour nous, c'est une évidence. Et cette idée qu'il y a des économies qui sont faites en supprimant les postes de travail de ce qu'on appelle classiquement dans l'administration les catégories C, on a le résultat concret. Et je ne sais pas qui va prendre le sujet et qui devrait le faire au niveau de l'État, mais c'est une véritable catastrophe. Et les associations peuvent faire tout ce qu'elles ont la capacité de faire, mais enfin, il ne faut quand même pas renverser les rôles. L'ensemble des personnes qui agissent au Secours Populaire sont imposables et payent leurs impôts. Logiquement, il devrait y avoir un retour.
Merci beaucoup, Myriam, d'avoir témoigné ce matin. Alors, une autre idée reçue veut, et je tire cette idée reçue de votre petit livret, il faut réduire les allocations chômage pour encourager les gens à travailler. Pourquoi c'est faux, Anne-Marie de Pasquale ?
Alors, je pense que ça a été démontré par des grands économistes. On peut citer Esther Duflo, qui l'a expérimenté et qui le dit, qu'en fait, réduire les revenus ne permet absolument pas de sortir de la pauvreté. Et puis, retrouver un emploi, on peut faire, même si ça semble facile, un calcul très rapide. On a 5 millions de personnes demandeurs d'emploi et on nous affiche 520 000 offres d'emploi vacantes non pourvues. Une pour 10, il en reste 9.
En revanche, ce qui est vrai, c'est que lorsque les indemnités sont réduites, le nombre de chômeurs baisse. Mais un rapport de l'INSEE montre qu'un quart des personnes en contrat court sont en chômage ou en inactivité 3 mois plus tard, après avoir obtenu ces emplois qu'ils n'ont pas forcément choisis.
Oui, c'est ça. En fait, on change les gens de catégorie. Parce que effectivement les indemnités baissent, donc les gens vont essayer de prendre des contrats, des petits contrats courts, des trucs journaliers, etc., parce qu'ils ont besoin d'un peu plus d'argent. Donc du coup, ils ne sont plus chômeurs. Donc c'est super pour l'administration, il y a moins de chômeurs. Mais en fait, ces gens-là, ils vont faire leur petit stage de 3 mois, et puis après, ils vont se retrouver de nouveau au chômage ou au RSA. Et donc, ils vont changer de catégorie, mais ils ne retrouvent pas d'emploi pérenne.
Jean-Laurent Casselli.
Le grand paradoxe, c'est qu'on considère les pauvres comme une catégorie à part, alors qu'en même temps, qui n'a pas été en contact avec la NPE, puis avec Pôle emploi, puis aujourd'hui avec France Travail. Je reviens à Métuche, mais il y a des générations entières qui ont connu en fait cette France de l'après-crise dans laquelle on vit depuis une quarantaine d'années. Et je trouve ça très paradoxal qu'on ait un discours comme ça stigmatisant qui mette à part une catégorie de la population, alors qu'encore une fois, je ne sais pas combien, mais enfin, une partie très conséquente de la société française a eu affaire à ces services.
Anne-Marie de Pasquale.
Oui, vous dites que c'est paradoxal, et je saisis ce mot pour revenir à la maltraitance institutionnelle, qui est un véritable paradoxe, puisque les institutions, elles ne sont pas faites pour exclure, a priori, et on en a besoin, et on défend vraiment l'idée que des institutions solides permettent de garantir l'accès aux droits. Sauf qu'elles se retrouvent dans des conditions impossibles. L'auditrice tout à l'heure a bien dit que les agents qu'elle a en face d'elle ne sont pas capables de l'aider, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Je veux citer un directeur de CAF qui dit, ben voilà, avec les moyens que j'ai, je peux mettre des agents à l'accueil qui pourront aider les personnes sur leur dossier. Par contre, ils ne sont plus derrière, donc les dossiers vont mettre 6 mois à être traités. Ou bien, je ne mets pas d'accueil, uniquement des machines, et puis ça ira plus vite en 2 mois. Mais je sais que ça va exclure des gens. Et si ça, c'est exactement une maltraitance institutionnelle partagée par les agents, par les directions, et on a besoin de décisions politiques et pas seulement des associations.
Autre idée reçue, avec, je cite votre livret, avec notre modèle de solidarité, les pauvres deviennent des assistés. Il faut conditionner les aides qu'on leur attribue contre des contreparties. Anne-Marie de Pasquale.
Là, vous êtes complètement dans l'actualité, puisque depuis le 1er janvier, la loi Plein Emploi s'applique sur l'accompagnement rénové du RSA. Je pense que c'est de ça dont vous voulez parler. Où là-dessus, on a produit un rapport suite à l'expérimentation très courte de l'année dernière avec le Secours catholique et avec l'association Equitas, où on peut défendre justement le côté nuisible de cet accompagnement rénové.
Ce discours sur l'assistanat, il est tenu souvent de bonne foi par des Françaises, des Français issus des classes moyennes qui considèrent que effectivement il y a des assistés qui profitent du système, et c'est un discours qui est relayé par certains partis politiques. Est-ce que vous comprenez ce regard parfois dur d'une partie de la population sur les pauvres considérés comme des assistés, où il faudrait tout de même instaurer des contreparties à toute aide sociale type RSA, Isabelle Motreau?
Bah non, justement, c'est ce que Anne-Marie de Pasquale vient de dire par rapport au RSA. D'abord, on n'a jamais vu de... On n'a pas de résultat sur le RSA conditionné. Il n'y a pas eu de résultat. Il y a eu une tentative de rapport sur les effets du RSA conditionné. Finalement, le rapport n'a pas été publié, donc on ne sait pas concrètement si ça fonctionne. Et puis, de toute façon, les droits sont des droits. On n'a pas à conditionner un droit. Par définition, c'est pas, si vous avez le droit de quelque chose, vous avez droit à quelque chose, vous n'avez pas à prouver que vous y avez droit. Enfin, je sais pas, c'est un non-sens absolu, quoi. Donc, le RSA conditionné, ça ne sert pas tellement à retrouver du travail, et en plus, ça induit l'idée que pour y avoir droit, il faudrait montrer patte blanche, quelque part. Il faudrait donner quelque chose en retour. Or, un droit, il n'y a pas de retour à avoir. On y a droit, point barre.
Allez, il est temps de retrouver les Français mode d'emploi de Jean-Laurent Casselli.
Regardez seulement, regardez.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors, Jean-Laurent Casselli, vous nous parlez ce matin d'un sport que je n'aime pas beaucoup pratiquer, mais qui fait fureur chez les jeunes et les cadres sup.
Oui, désolé Ali, et comme beaucoup de Français depuis le début de l'année, je retourne à la salle. Alors, pas la salle de gym, ni même à la salle de yoga, je vais à la salle d'escalade, au bloc. Alors, petit rappel technique, le bloc, c'est cette discipline qui consiste à grimper sur des parois de 4 mètres maximum, sans être encordé, donc. Je vous assure que ça suffit pour avoir le vertige, en tout cas me concernant. Alors, l'escalade, c'est la discipline de l'époque. C'est sport individuel et en même temps collectif, c'est de la performance et de la bienveillance, l'ambiance est très sympa, on compte pas les points, on s'entraide entre grimpeurs, à la fin surtout on boit sa petite bière IPA de microbrasserie. J'étais hier encore et quelque chose m'a frappé, c'est qu'autour de moi, la plupart des grimpeurs avaient des t-shirts avec des logos de grandes entreprises de la tech ou de grands cabinets de conseil. Ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Quand je suis dans le quartier de la Défense, je vois de plus en plus de salariés habillés en tenue d'escalade ou arborant des marques de ce qu'on appelle la culture outdoor, et donc je me suis suis demandé si l'escalade, c'était pas devenu un peu le nouveau marathon, c'est-à-dire l'activité favorite des ingénieurs, des start-upers, des cadres sup de manière générale. Et figurez-vous que je ne suis pas le seul à me poser cette question, puisque l'année dernière, le site spécialisé Vertige Média a jeté un pavé dans la mare en se demandant si l'escalade n'était pas en voie de gentrification. Autre rappel technique, la gentrification, c'est donc quand un lieu populaire change sous l'effet de l'arrivée de populations plus aisées.
C'est un peu étrange que vous aimiez l'escalade, vous qui avez un peu le vertige, Jean-Laurent Casselli. Expliquez-nous cette passion pour l'escalade.
Alors, petit retour en arrière, Ali, jusqu'en 2010, on comptait une centaine de salles sur le territoire environ seulement, c'est peut-être déjà trop pour vous. À l'époque, c'était des petits clubs de passionnés, des associations, et puis le sport a été introduit au JO en 2020. Surtout, des chaînes de grandes salles privées sont arrivées en France, et avec elles, une urbanisation et une massification de la pratique. On a observé à cette occasion l'apparition d'un nouveau public de l'escalade, ce que le site Vertige Média dont j'ai parlé a appelé les néo-grimpeurs, et dans une étude à paraître, le site montre qu'il y a plusieurs paradoxes. Le premier, c'est que la moitié de ces néo-grimpeurs, ceux qui pratiquent depuis moins de 2 ans, ne pratiquent jamais en extérieur. Ça veut dire que l'escalade urbaine est devenue une fin en soi, alors qu'avant, on s'entraînait les jours de pluie en salle pour aller escalader, j'allais dire, des vraies parois dans la nature. Autre paradoxe, l'escalade s'est massifiée, je l'ai dit, avec la multiplication des salles, certes, mais elle est devenue une pratique peu accessible sur le plan financier. En ce début d'année 2025, l'entrée individuelle annoncée dans les salles des principaux réseaux est à 18 euros. Alors certes, il y a des réductions en heures creuses. Certes, le pass permet de rester autant de temps qu'on souhaite. Pour moi, 3/4 d'heure, hein, ça suffit. Ce qui fait de moi un client assez rentable pour ces salles. Mais notons que l'aspect financier ne suffit pas à expliquer pourquoi les jeunes actifs, citadins en particulier, raffolent tant de l'escalade. Il y a également un facteur culturel. Pratiquer le bloc, ça ne renvoie pas tout à fait les mêmes signaux que de dire qu'on va à la muscu ou qu'on fait du pilates. Il y a un petit côté chic et décalé. La grimpe, ça renvoie en fait à toute une légende libertaire et anticonformiste, celle du grimpeur vagabond qui dort dans son van et enchaîne les parois en free solo. Et les salles de grimpe adorent jouer sur cet imaginaire de contre-culture. Ça se ressent jusque dans leur vocabulaire. On parle de bonnes vibes, de chillé. L'un des leaders de la grimpe urbaine parle de loft pour désigner ces espaces. Comprendre des lieux où faire de l'escalade évidemment, mais aussi où se restaurer, télétravailler, passer du temps avec ses kids, parce que oui, dans l'escalade, on n'a pas d'enfants, on a des kids. Voilà, l'escalade, c'est pas forcément un sport de riche, je dirais plutôt que c'est la discipline de ceux qui ont un fort capital culturel, comme diraient les sociologues, ce qui soulève d'ailleurs une seconde question, celle de savoir si l'escalade c'est de droite ou c'est de gauche. Alors, comme j'ai ouvert déjà une polémique ce matin, je vais m'arrêter là, je répondrai pas à la question, en tout cas pas directement Ali, mais je vous donne quand même un indice. Sachez que l'acteur François Civil pratique l'escalade en salle, alors que Cyril Hanouna, non, lui fait du padel tennis. Il est d'ailleurs 74e au classement officiel des meilleurs joueurs français.
Et je comprends mieux pourquoi je n'aime pas l'escalade, mon cher Jean-Laurent Casselli de Maison Casselli. On peut évidemment retrouver tous les épisodes des Français Mode d'Emploi sur l'appli Radio France.
Grand bien vous fasse.
Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons
sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse à quelques préjugés et idées reçues sur la pauvreté. Écoutons le philosophe Guillaume Leblanc. C'était sur France Inter en 2022.
Le pauvre, c'est d'abord celui qui mène une vie particulière, qui a un vécu singulier. Et on perd d'autant plus le potentiel, du coup, politique de ses existences. Comme l'étranger ne se définit pas par le fait, la désignation négative qui pèse sur lui, le pauvre ne se définit pas par cette désignation qui finit par valoir comme une espèce d'injure. Il se définit par une forme de vie. C'est quelqu'un qui tente de vivre dans la pauvreté, qui fait l'épreuve de la pauvreté. Et donc, son courage à lui, c'est justement de tenter de vivre une vie pleine alors qu'il est justement acculé à une privation de ressources, une privation de logement, etc.
Ça fait du bien d'entendre le philosophe Guillaume Leblanc. Henriette Stenberg, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Secours Populaire depuis 2019. Quelle est l'idée reçue sur la pauvreté qui vous agace le plus ?
Je crois que c'est s'il travaillait, il ne rencontrerait pas ces difficultés. Cette phrase est pour moi un indicateur d'ignorance, dans le meilleur des cas, de mépris, ce qui n'est pas plus acceptable, mais aussi de peur de la personne qui le prononce, parce qu'elle-même se dit « et moi je ferais comment ?» Donc elle met à distance. Et c'est ce que je trouve tout à fait insupportable.
Anne-Marie de Pasquale, je rappelle que vous êtes déléguée nationale d'ATD Quart-Monde, Isabelle Motreau, autrice, journaliste et bénévole chez ATD Quart-Monde. J'ai puisé dans votre petit livret « En finir avec les idées reçues, les idées fausses sur la pauvreté ». Les pauvres sont des fraudeurs, il faut les contrôler. Rappelons tout de même que la fraude aux cotisations sociales produite par les patrons et les entreprises est nettement supérieure à la fraude aux prestations sociales. La fraude aux prestations sociales est estimée, je crois, à 2,3 milliards par la Caisse nationale des allocations familiales, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement.
Hein, Anne-Marie de Pasquale ?
Oui, exactement. Oui. Isabelle Motreau vient de le dire.
Mmh. Oui, c'est 2,3 milliards d'euros. C'est énorme, quand même. Mais c'est rien par rapport aux autres fraudes, aux fraudes aux impôts, etc.
La fraude aux cotisations sociales est estimée entre 7 et 8 milliards et demi d'euros. Et ne parlons pas de la fraude fiscale. Hein. La
fraude fiscale, 80 à 100 milliards d'euros par an. Alors, on n'arrive pas bien à l'estimer, hein, évidemment, puisque c'est de la fraude. Donc, il y en a une partie qui n'est pas découverte. Hein, mais on est autour de 100 milliards d'euros par an. Donc, c'est 50 fois supérieur à ce qu'on disait, c'est-à-dire les fraudes aux prestations sociales. On dit que les moins riches sont les moins fraudeurs, et c'est eux qu'on contrôle le moins, pourtant.
Les contrôles sont légitimes,
évidemment. Oui, tout à fait, mais bon.
C'est sur quoi je voulais appuyer, effectivement, sur les contrôles. Les pauvres sont les plus contrôlés et en général, il y a tout de suite retrait dès qu'il y a suspicion de fraude qui n'est pas forcément avérée. Et qui
retrait des prestations.
Retrait des prestations qui peut être du fait de l'administration d'ailleurs. Mais les indus, on met toujours beaucoup plus de temps à les récupérer.
Vous dites, chez ATD Quart-Monde, que ces démarches de contrôle peuvent être pauvrophobes.
Alors...
Oui, on parle de l'algorithme de la CNAF, je pense.
C'est quoi cet algorithme ?
Alors Anne-Marie va vous le définir. Parce que...
Elle n'a pas envie de parler d'algorithme à
10h51. C'est un peu pointu, je voudrais pas me...
En tout cas, en fait, il y a des critères pour contrôler, forcément, bien sûr, et qu'on fasse appel à des algorithmes, c'est possible, sauf qu'on pense que ces algorithmes ils sont faussés, parce que de fait, ils soupçonnent qu'une personne qui vit dans un appartement social va être plus fraudeur qu'une autre, et c'est ces personnes-là qu'on va plus contrôler, etc.
Autre cliché tenace, les pauvres ne savent pas gérer leur argent, ils sont responsables de leur pauvreté.
Oui, alors ça, c'est complètement idiot, parce que si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez contrôler très facilement votre budget, mais alors vivre avec trois enfants à une famille de 5 ou 6 personnes, ou même de 2, avec rien, avec 10 euros par semaine, vous allez voir comment c'est facile de gérer un budget comme ça. Et pourtant, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent arrivent à jongler avec le peu d'argent qu'ils ont, qui est une performance. Hein, franchement.
Il y a une légende urbaine très, très tenace. Hein. Ce sont ces pauvres qui achèteraient une télévision à écran plat avec l'allocation scolaire.
Oui, alors là, j'ai fait une enquête très serrée pour quand j'ai écrit ce petit livre. Il n'y a aucune enquête, aucun chiffre, rien. Rien du tout qui puisse justifier cette légende urbaine. On ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est totalement faux.
François Lelore, je rappelle que vous êtes psychiatre. Les idées reçues sur la pauvreté peuvent altérer l'estime de soi. Rappelez-nous d'abord peut-être ce qu'est l'estime de soi.
L'estime de soi, si vous voulez, c'est une association à la fois du regard sur soi, c'est-à-dire la manière un peu dont on s'évalue, dont on se juge, de confiance en soi, c'est-à-dire de se sentir capable de faire certaines actions, enfin... Je sais pas, dans un avion, si on demande à un médecin, si c'est une attaque de panique, ma confiance en soi est assez bonne, puisque je suis psychiatre. Si on me dit une dame est en train d'accoucher, là, ma confiance en moi va chuter brutalement. Et puis, bien sûr, elle se nourrit aussi au quotidien de nos petits accomplissements et du regard des autres. Et il est vrai que si on est dans la grande pauvreté, on risque de sentir un regard désapprobateur en permanence, au point de ne plus oser, ce que vous dites, regarder les autres. Et puis aussi, si on, par exemple, on n'a pas de travail, on n'a pas de réseau social, on ne va pas avoir de regard positif sur soi, on ne va pas avoir de sentiment d'accomplissement sur soi. Donc oui, la pauvreté peut endommager durement l'estime de soi.
Et générer de la honte.
Et générer, alors, de la honte, alors, effectivement, de la honte et de la culpabilité, parce que finalement, il y a la honte de ne pas être au niveau du groupe auquel on appartient. Ben là, c'est la honte du petit garçon, de la petite fille qui n'a pas les mêmes vêtements que les enfants mieux pourvus dans sa classe. Hein. Enfin, ma mère était boursière et à l'époque, les boursières avaient des blouses grises et les enfants avaient leurs vêtements, donc elles vivaient ça au quotidien. Et il y a aussi la culpabilité, puisqu'effectivement, il y a l'idée que finalement, si on est pauvre, c'est qu'on n'a quand même pas su se débrouiller. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait assez ou fait à bon escient les efforts. Donc tout ça, effectivement, la pauvreté mine l'estime de soi et l'insécurité aussi, puisque l'anxiété, si vous voulez, l'anxiété chronique, et quand on est dans la pauvreté, quand on a des problèmes d'argent, on est dans l'anxiété chronique, même sans être dans la grande pauvreté d'ailleurs, eh bien ça aussi, ça mine l'estime de soi avec cette impression qu'on n'a pas su, qu'on ne sait pas maîtriser son environnement. Donc oui, la pauvreté, et moi, bon, je ne travaille pas au contact de la grande pauvreté quand j'étais à l'hôpital, oui, mais même les soucis d'argent peuvent vraiment miner l'estime de soi et aggraver, disons, des tendances à la dépression ou aux troubles anxieux.
François Lelor, comment regonfler son estime de soi quand on vit dans la pauvreté ?
Ben, je pense qu'il y a différents moyens. Il y a d'abord essayer de trouver des gens qui ont un regard positif sur vous. Alors peut-être certaines des intervenantes qui sont ici contribuent à ça.
Aller dans une association.
Voilà, aller dans une association, trouver des regards positifs. Moi j'ai vécu dans des pays, Thaïlande, Vietnam, où ça c'est quand même, c'est la famille. Donc en général la pauvreté n'est pas synonyme d'isolement. Mais ici dans nos sociétés, la pauvreté peut vraiment être synonyme d'isolement. Et aussi, alors évidemment, quand on a une très bonne estime de soi au départ, ça aide, parce qu'elle est entamée, mais elle n'est pas effondrée. Mais souvent, les gens qui sont dans la pauvreté peuvent aussi déjà y avoir des problèmes éducatifs, c'est vrai, ce qui fait qu'ils n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes. Et puis, il y a aussi, idéalement, d'avoir un sentiment d'accomplissement. Alors, ça peut être une mère qui réussit à élever ses enfants, et quand même l'activité. C'est-à-dire que moi, je dirais que l'activité, alors, il y a ceux qui disent « Ah oui, les pauvres doivent travailler, etc. » Mais surtout, l'activité... On maintient son estime de soi tous les jours par des petits accomplissements. Alors ça peut être, je sais pas, moi par exemple, quand je range bien la vaisselle dans la machine, j'ai un sentiment d'accomplissement.
Ou être bénévole.
Mais ça, c'est un truc de riche. Mais en revanche, être bénévole, alors il y a plein d'études qui montrent que la générosité fait du bien. C'est-à-dire qu'au fond, alors là, on parle d'estime de soi des gens qui contribuent, qui vont aux associations. Il y a des études qui montrent que ça fait du bien. Et donc, c'est encouragé parce que ça, le regard positif, l'aide et le sentiment d'accomplissement, c'est ce qui peut aider les pauvres.
Henriette Stenberg, comment ne plus baisser les yeux et comment ne plus se laisser violenter par toutes ces idées reçues sur la pauvreté ?
S'il y avait une solution miracle, je n'hésiterais pas à vous la communiquer. Il y a en tout cas un aspect qui est limpide, c'est ne pas rester seul et aller rencontrer d'autres personnes qui agissent, quelle que soit la forme d'action, mais qui agissent et qui font qu'on est moins seul et que non seulement on est moins seul, mais du coup, la solidarité collective crée de l'énergie. Et pour le secours populaire, c'est une question évidemment majeure, et nous développons le maximum d'activités possibles pour que les personnes en difficulté elles-mêmes viennent, participent aux activités, amènent leurs enfants, participent aux activités, et de ce fait se trouvent à l'identique comme les autres.
Merci
c'est
beaucoup.
Vraiment pour nous, une approche déterminante, efficace. Et je ne peux qu'inviter les auditeurs à y aller.
Merci beaucoup, Henriette Stenberg. On peut aider le Secours Populaire en étant bénévole ou en donnant de l'argent sur votre site. Pareil avec vous, Anne-Marie de Pasquale. On peut aider ATD Quart-Monde en devenant bénévole, en donnant de l'argent, en achetant ce petit livre à 5 euros, En finir avec les idées reçues sur la pauvreté aux éditions Quart-Monde et aux éditions de l'atelier Isabelle Moutreau.
Et pour continuer ce débat passionnant, je donne rendez-vous aux auditeurs parisiens ou ceux qui sont de passage le 6 février dans le 12e à Grande Contrôle où on va reparler de ce livre.
À quelle heure ?
À 18h30 et on va continuer le débat avec des intervenants.
Merci beaucoup Isabelle Moutreau et merci François Lelor d'être venu.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.